Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir dans La Rose des Vents, il sera question d'immigration clandestine. On parle beaucoup de migrants arrivés aux portes de l'Europe. Mais que savons-nous de leur périple? Que savons-nous des conditions de leur traversée, Daniel?
Bien peu de choses. C'est dans ce cadre qu'un journaliste d'origine africaine établi en Suisse a investigué et recueilli différents témoignages de migrants arrivés en Europe dans la clandestinité. Témoignages qui ont fait l'objet d'un roman, Air Mawari, un laissé-mourir pour clandestins, publié aux éditions La Doxa en avril 2015.
Alors justement, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur de ce livre qui dérange un peu, hein, Roland Bradley, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Alors, c'est un média en ligne destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Vous êtes journaliste, éditorialiste, vous êtes né au Cameroun et fervent défenseur des opprimés.
Oui, oui.
Voilà, ben vous le dites mieux que moi. Vous avez écrit...
C'est mon combat.
Vous avez écrit différents billets et ouvrages sur la prostitution, la politique et l'immigration. Alors, que raconte Air Mawari, votre dernier livre sur l'immigration clandestine, Roland Bradley?
Alors, Air Mawari, c'est... déjà, bonsoir. Merci de m'avoir invité pour parler d'Air Mawari, parce que Air Mawari, c'est... un livre qui parle d'une thématique qui m'est très chère, l'immigration clandestine, parce que moi, je pense que c'est pas assez couvert, c'est une thématique qui n'est pas très médiatisée, mm-hmm. à mon point de vue. Alors, c'est un livre qui parle, n'est-ce pas, de la situation que vivent les immigrés clandestins. Et c'est un livre, normalement, qui montre la violence morale et physique de ces odyssées. C'est aussi un livre qui dénonce l'ignominie dans laquelle nous évoluons. C'est un livre qui sensibilise ou qui essaye de sensibiliser les Européens aux réalités de la migration. Et dans ce livre, moi, j'essaye d'humaniser les politiques.
Alors, vous êtes né au Cameroun. Oui. Pourquoi est-ce que cette thématique vous tient autant à cœur? Bon, de là, en écrire un livre.
Oui, là, si vous avez lu le livre, il y a Claudie. Claudie, c'est vous qui m'invitez pour parler de l'immigration clandestine. C'est Daniel qui s'intéresse à ça. C'est moi. C'est toute personne qui regarde la télévision, qui regarde le 19h30 d'Arius et qui se dit que pourquoi ces gens sont prêts à risquer les vies pour aller en Europe, cette Europe où nous qui vivons pensons que ça ne va pas, que ce n'est pas au paradis. Ah. Alors, on essaye comme on peut de voir comment on peut, dans un d'une façon ou de l'autre, sensibiliser les gens et faire comprendre que...
Est-ce que vous pourriez nous raconter le premier chapitre qui montre Claudie dans son salon et qui fond en larmes? Et pour quelle raison?
Alors, Claudie est un patron d'une clinique. C'est un médecin reconnu en France. Et Claudie emploie plus de 700 personnes. Il est un chirurgien. Il est quelqu'un qui a réussi sa vie, entre guillemets. Mais le problème qui se pose, c'est que quelques jours plus tôt, Claudie se retrouve dans une situation où certains de ses collègues l'amènent à comprendre que lui, parce que Claudie, c'est noir, qui a réussi sa vie en Europe, ses collègues lui disent que qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que les Africains décident un bon matin, n'est-ce pas, de risquer les vies? Pourquoi est-ce qu'ils sont suicidaires? Mais c'est ses collègues qui sont... parce que Claudie est le patron de la clinique, c'est sa clinique à lui. Mais ils ne savent pas le passé de Claudie. Claudie pleure parce qu'il n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer qu'il y a 18 ans.
Mais en tant que journaliste, observateur de toute cette mouvance, de toute cette immigration clandestine, vous qui avez traversé aussi, qui êtes parti du Cameroun en Suisse, qu'est-ce que vous pourriez répondre en fait à ces Européens qui se posent toutes ces questions?
Oh,
c'est difficile.
Bon, en fait, je ne peux pas me permettre de dire que je réponds. Moi, j'essaie de voir dans quelle mesure je peux amener les gens à comprendre que dans la vie, on juge pas des faits qu'on maîtrise pas. On essaie de comprendre une situation avant de porter, si on peut, les jugements. Que dans la vie, on ne peut pas se permettre de dire qu'écoutez, ce qui se dit dans les journaux, c'est ce qui se passe, que les Arabes, les Africains sont en train d'envahir l'Europe. Il faut essayer de voir, aller investiguer, essayer de comprendre ce qui ne va pas avant de porter les jugements.
Ermaraoui donc se base sur des faits réels. Vous avez été sur le terrain, en Europe, en Espagne notamment, au Maroc. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans les témoignages que vous avez pu recueillir, qui vous ont permis d'écrire ce livre ?
Alors, plusieurs choses. C'est dommage qu'avec le temps qui nous est imparti, je ne peux pas vraiment élaborer.
Mais je rebondirai peut-être sur deux, trois éléments qui sont percutants dans le livre, qui sont la faim, la solitude et la violence au quotidien. Et par rapport à ces éléments-là, est-ce que ce sont des choses qui vous ont beaucoup interpellé ? C'est ce qui ressort.
Oui, quand en 2015, nous sommes au port de l'Hérault et il y a des gens qui vivent dans des forêts comme les animaux. Il y a des gens qui mangent dans des serviettes hygiéniques. Il y a des gens qui, si vous avez lu le livre, c'est assez fort, hein, parce qu'on en a parlé, j'étais au salon du livre de Genève, et ceux qui ont pu le lire sur place et qui ont eu la chance de me rencontrer, entre guillemets, la chance, je ne peux pas être prétentieux, mais bon, c'est ce qu'ils disaient. Ils m'ont dit que votre livre est très cru, c'est fort, c'est
cruel. Puissant,
il y a des,
il y a des passages très durs.
Alors moi je dis, ce sont des choses que personne n'est au courant. Quand je dis personne, je veux dire ceux qui vivent en Europe. C'est que ce sont des réalités qu'il faut vraiment entrer dans ce monde pour comprendre. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 2015, il y a des gens qui vivent dans les forêts, au port de l'Europe, que ce soit en Grèce, en Espagne, au Maroc? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et ces gens, ils ne vivent pas dans la forêt au sens péjoratif. Ils vivent dans la forêt au sens propre, au sens littéral. Ils vivent dans la forêt comme des animaux. Ils bouffent ce qu'ils peuvent bouffer. Ils n'ont pas la possibilité d'aller en ville parce qu'ils sont pourchassés comme des animaux. Ils sont pourchassés comme des bêtes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se cacher dans des forêts. Et maintenant, vous et moi, on peut survivre quelques minutes, quelques heures sans manger. Mais à un moment donné, il faut bien bouffer quelque chose. Alors, il bouffe tout ce qui les tombe entre les mains.
Ah, alors, vous en parlez dans votre livre, vous l'expliquez de manière très crue, mais finalement, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'interpeller les gens sur cette question-là ? Ou est-ce qu'il y a des vraies clés pour que les gens se sentent utiles ?
Alors, interpeller, moi, je pense que moi, j'ai juste voulu... plus ou moins, parce que moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, déjà, dans le premier temps, moi, en tant que journaliste, je connais comment les médias fonctionnent. Alors, ce qui ne va pas, c'est que la couverture de l'immigration est assez biaisée. Je m'excuse, hein, mais c'est une triste réalité. Alors, moi, je me suis permis de dire qu'avec mon petit réseau, avec le fait que je connais un peu comment ça se passe, la communication, le journalisme sérieux, un peu comme le Mediapart, qui est pour moi un modèle, c'est d'investiguer, c'est d'amener les gens à comprendre la vérité avec des preuves.
C'est ce que vous faites de votre livre.
Oui, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que moi, je me dis qu'un Suisse qui se lève un bon matin, qui vote l'extrême droite parce qu'il a entendu dire qu'un politicien qui est politicien juste de nom, qui a plus ou moins d'autres choses, qui est plus militant que politicien, ou plus militant que journaliste d'ailleurs, parce qu'il y a certains journalistes qui font du militantisme en Europe, qui se lève un bon matin pour dire que les Européens vont perdre tous les repères, toutes les racines, toutes les cultures, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'envahir l'Europe, qui sont en train de changer la culture. Il faut comprendre que ce n'est pas vrai, que ceux qui se lèvent le matin pour partir chez eux ont faim. C'est ce qu'ils disent ici, mais d'une façon péjorative. Mais moi, je dis plutôt, si vous me permettez, ils n'ont pas. Je dis, ils ont soif. Parce que vous avez sûrement soif de quelque chose dans votre vie. Tout le monde ici a soif de quelque chose. Ceux qui viennent de Syrie, ils ont soif de la paix. Ceux qui viennent de l'Afrique, de l'Érythrée, ils ont soif de la justice. Ceux qui viennent du Cameroun, par exemple, ils ont soif de la stabilité. Parce que si vous avez tous les diplômes qu'il faut, en Europe, ici en Suisse, vous avez le boulot que vous avez été formé pour. Mais au Cameroun, par exemple, il faut que vous payez pour ça. En Syrie, il faut que vous fuyez parce qu'il y a la guerre. En Érythrée, il faut que vous fuyez parce qu'il y a un dictateur qui va vous mettre en prison. Et toutes ces choses-là vous amènent à chercher, à étancher votre soif.
Mais ce qui est frappant aussi dans votre ouvrage, et c'est une question qu'on pourrait se poser par rapport, en fait, au facteur argent. La personne qui quitte a besoin d'une certaine somme. C'est-à-dire qu'on s'endette pour un mythe, le mythe européen. Ouais. Et quel est votre regard, en fait, sur cette dimension pécuniaire des voyages, de manière générale ?
Alors...
Parce que j'ai eu l'impression, en lisant votre livre, que finalement, pour quitter, que ce soit l'Afrique ou la Syrie, quelque part, il faut être riche. C'est le sentiment que j'ai eu.
Oui. Bon, c'est notre regard qui est assez intéressant d'ailleurs. Je me permets, ou je profite de l'occasion pour dire qu'il y a la suite du livre. En fait, c'est un rêve. Quand vous avez tout perdu chez vous, quand vous avez tout perdu, quand vous êtes au bout du gouffre, quand vous avez tout perdu, vous ne croyez plus en rien dans votre pays d'origine. Vous vous dites que soit vous restez, vous mourrez, ou vous risquez pour voir si vous avez la possibilité de réussir ailleurs. Parce que là, vous n'avez pas de choix chez vous. Alors, il faut risquer pour aller voir dans quelle mesure vous pouvez vous chercher, entre guillemets, c'est dans le livre d'ailleurs. Chercher, c'est une expression typiquement africaine. Ça veut dire que, écoutez, vous voulez survivre, vous voulez...
Réaliser, chercher, c'est se réaliser.
Oui, votre rêve. Alors, ce qui se passe dans ce sens, c'est qu'il y a le rêve qui... Vous avez le peu que vous pouvez vendre un terrain, vous pouvez vendre votre voiture, votre maison. Parce que là, ça ne vous sert plus à rien. Alors, les gens vont dire, mais écoutez, il a 100 000 euros, mais il peut vivre mieux chez lui. Alors, 100 000 euros, ça veut dire que, bon, peut-être 100 000 francs CFA, ce n'est pas 100 000 euros. Mais 100 000 francs CFA, vous pouvez survivre, mais vous ne pouvez pas vivre avec votre, vous pouvez vivre comme vous voulez vivre.
Mais combien vaut un voyage, par exemple, du Cameroun à Ceuta ou à Melilla?
Alors,
approximativement, j'ai l'impression que ça génère des sommes énormes.
Oui, ça dépend. Et ça, c'est une question à laquelle on peut... vraiment pas répondre parce que ça dépend de votre trajectoire, ça dépend
oui,
de la
parce que j'ai vu qu'il y avait les voyageurs niveau 1 et niveau 2,
oui,
ça aussi 3, c'est
frappant. Il y a les voyageurs low cost, il y a les voyageurs de luxe, il y a les voyageurs qui ont la chance, qui ils font un voyage du Cameroun, par exemple, ou du Gabon, jusqu'au Maroc, par exemple, trouver des voleurs, des escrocs, des malhonnêtes, des policiers qui les arrêtent, qui les...
Ils se font spolier tout au long du voyage.
Ouais, du coup, oui. Donc, du coup, il y a vraiment... On peut pas... C'est juste... Certaines personnes sont obligées de travailler dans d'autres pays parce qu'il faut continuer le voyage. D'autres sortes...
De manière clandestine, encore une fois.
Oui, bien sûr.
Je profite de vous poser encore une dernière question, hein, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien en une minute. Qu'est-ce que vous pensez que ça donnera comme résultat que de montrer, raconter ces différentes violences au quotidien de l'immigration clandestine? Qu'est-ce que ça pourrait changer en Europe, ici, avec toutes les personnes d'Europe qui lisent ceci?
Alors, moi, je veux prêter une partie du discours d'Obama qui a juste dit ceci par rapport à la droite américaine qui était contre la légalisation massive des immigrés clandestins qui venaient du Mexique. Il disait, peu importe où nous étions, d'où nous venions, peu importe que nous soyons américains, que nous soyons anglais, que nous soyons indiens, que nous fuyons la guerre, que nous fuyons la famine, que nous fuyons la persécution, peu importe que nous soyons, que nous ayons le bon passeport, le bon papier, que nous soyons riches ou pauvres, que nous aspirons tous à une vie meilleure. La vérité, c'est que toute personne a besoin d'une place pour vivre, pour s'installer, pour préparer pour son avenir, pour préparer pour l'avenir de ses enfants et de sa génération. C'est Barack Obama qui avait dit ça il y a cela 2 ans, je pense. Donc moi, je dis juste que moi, je ne veux pas me permettre de dire que je vais donner une leçon aux Européens. Je ne veux pas me permettre de dire que j'ai envie de montrer ce qui ne fonctionne pas dans la politique européenne. Moi, je vais juste dire une seule chose, que nous sommes tous égaux.
C'est une belle conclusion. Je dirais, et puis ça nous permet également de citer la devise préférée de Claudie, l'héroïne d'Air Mawari, qui ne risque rien, n'a rien. Merci beaucoup Roland Bradley d'être venu nous parler de votre ouvrage Air Mawari,
un laisser mourir pour clandestin,
voilà, qui a été publié en 2015 aux éditions de la Doxa,
l'édition parisienne.
Voilà, merci beaucoup Roland Bradley, bonne continuation.
Merci à vous.
Et merci à Daniel pour la préparation de ce sujet.